Les festivals de la fabrique.
Paléo, ce n'est pas seulement de la musique, et encore moins cette année. Pour fêter ses 40 ans, le festival a proposé un projet commun avec le musée de l'Élysée qui, lui, fête ses 30 ans. L'occasion pour 5 photographes d'investir l'endroit en proposant une vision du festival en dehors de celle véhiculée par les médias. À deux pas de la scène du détour, dans un espace carré tendu de grandes bâches, l'exposition photo accueille les visiteurs qui se succèdent de façon ininterrompue. Certains prennent à peine le temps de regarder, c'est juste de la photo, disent-ils. D'autres sont plus attentifs et apprécient cet endroit un peu à part ou échappé à la cohue ou à la pluie. Pauline Martin, commissaire de l'exposition Un autre regard sur Paléo, nous explique.
C'est né d'une envie, en fait, à la fois de Paléo Festival, qui a approché le musée en premier et du musée de l'Élysée, d'offrir un autre regard sur le festival. Paléo avait envie, pour les 40 ans, pour fêter ses 40 ans, de proposer un autre regard, c'est-à-dire différent de celui qu'offrent les journalistes accrédités d'habitude à Paléo Festival. Et puis pour le musée, c'était une belle opportunité pour fêter les 30 ans du musée, d'offrir des cartes blanches à 5 photographes et de soutenir la création artistique.
Ces 5 photographes, comment est-ce que vous les avez sélectionnés ?
Alors, sur différents critères. D'abord, sur la qualité de leurs travaux qu'on connaissait. C'est des photographes qu'on suit depuis longtemps au musée de l'Élysée. Il fallait qu'on soit sûr que le travail serait bon, puisque c'était une carte blanche et qu'on n'a pas vu avant d'exposer ce qu'on allait exposer, en fait. Ça, c'était un des éléments importants. L'autre élément, c'était d'avoir des artistes qui aient des approches très différentes les uns des autres, pour avoir 5 regards vraiment très différents sur Paléo. Et puis, un autre critère, c'était aussi d'avoir des artistes qui connaissent le festival déjà, qui puissent s'approprier ce terrain de jeu, en fait, en un certain sens. Donc, ce sont des photographes qui travaillent dans la région habituellement.
Petite visite audio-guidée de l'endroit, en compagnie de Pauline Martin, Anne Gola, Olivier Christina et moi-même. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du travail de chacun de ces 5 photographes ?
Alors oui, alors il y a le travail de Nicolas Henny, qui est celui qu'on voit sur les bâches extérieures, en fait, de la structure. Nicolas qui a travaillé sur la nourriture à Paléo, que ce soit dans les lieux de stockage, dans les endroits où on fait la cuisine, les lieux de consommation. Donc il offre un travail extrêmement coloré, très, très vivant, qui est un vrai travail de création, puisqu'il y a à la fois des images prises à Paléo, d'autres images faites en studio, des images qu'il a retravaillées, et tout ça donc dans un vrai élan artistique.
De loin déjà, on repère l'espace du musée aux images colorées de Nicolas Henny qui surplombent la structure. Il y a quelque chose d'aguicheur dans ces images. Les codes publicitaires ne sont jamais très loin. Mais à bien y regarder, il y a souvent des détails, des petites choses qui font qu'on est ailleurs. Comme par exemple la façade de l'espace qui fait face à la scène du détour. Les photographies imprimées là, sur fond de moules passées au rayon X, nous emmènent dans un univers un peu inquiétant. C'est Paléo, ça ? On pourrait être dans une fête de campagne. La foire aux bestiaux n'est pas loin. On est dans un lieu presque désagréable, masculin, qui allie bizarrement un imaginaire marin et rural pour mieux nous troubler et nous désorienter. À côté des images chatoyantes des autres façades, où la nourriture n'est plus un bien de consommation mais de présentation, un objet plastique appelant le regard bien plus que le ventre.
Il y a le travail d'Anne Gola qui a vécu en fait pendant une semaine avec les roadies qui montent la grande scène. Alors c'est un travail très très différent, très riche, qui offre un regard particulier sur ce groupe de gens qui travaillent ensemble pendant une semaine. Elle expose des papiers peints et puis des lightbox.
Discussion avec Anne Gola.
Comment est-ce que tu as géré dans un premier temps cette commande du musée de l'Élysée de faire quelque chose à Paléo ? Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un tel cadre ? Et puis est-ce que tu as très vite eu l'idée de ce que tu voulais faire ? Ou est-ce qu'au contraire il y a eu une phase d'observation, de préparation très importante ?
Ouais, il y a eu une sorte de visite un peu fantôme. Quelques mois avant le festival, je crois que c'était, c'était pas pendant l'hiver, mais à un moment donné, peut-être l'automne d'avant, où en fait on a rencontré des gens qui travaillaient pour le festival, puis qui nous ont en fait raconté des histoires, qui nous ont raconté un peu leur vécu du festival. Certaines personnes qui ont travaillé à Paléo depuis toujours, quoi. Et puis moi je me souviens qu'il y avait Mario, donc une des personnes principales avec qui on a discuté, qui nous avait parlé de l'équipe justement des techniciens qui travaillent comme bénévoles liés aux scènes. Et puis lui, il avait fait une belle comparaison avec les techniciens de la scène et l'équipage d'un navire en fait. Puis moi, ça m'avait beaucoup plu, cette image-là. Déjà, je m'étais dit, puis j'aime bien le fait d'avoir un groupe de personnes assez définies dans un espace aussi assez, avec un territoire aussi qui leur appartient et puis qui sont un peu planqués, en fait, qui sont, ils sont sous la scène. Et puis, j'aimais bien l'idée d'avoir un groupe de personnes à intégrer et puis d'avoir un peu mon coin, quoi. Donc ça m'avait plu à la base. Et puis, c'était surtout en écoutant en fait l'expérience des autres que je me suis fait une projection sur certaines choses qui m'intéressaient. Et assez vite, je me suis dit « Ok, ça c'est un truc que j'aimerais essayer ». Puis voilà, après, je leur ai expliqué que ça m'intéressait. Et puis, ils nous ont aidés en fait à simplement avoir accès à ce qu'on voulait. En fait, c'était assez facile. Beaucoup plus facile qu'un contexte où il faut convaincre en fait les gens avec qui on travaille. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec des gens qui savent pas du tout ce que je fais, en fait. Et puis, de devoir beaucoup plus les convaincre pour les faire accepter de me prendre dans leur histoire, en fait. Donc, pour ça, c'était assez facile. Et puis après, il y a eu plutôt un assez gros travail pendant toute la semaine du festival où j'étais avec les techniciens, donc je vivais sous la scène. Et puis, je faisais partie de l'équipe de cette Golden Team, c'est comme ça qu'ils s'appellent les techniciens de la grande scène, enfin les bénévoles de la grande scène. Et puis c'était une semaine hyper intense, vraiment pendant le festival pour moi. Il y a eu assez peu de travail avant, et puis après beaucoup de travail de post-production, puis un peu de conceptualisation après en fait. Mais c'était la partie la plus intense, c'était au moment du festival, quand sous la scène, quoi.
C'est beau ce que tu dis sur la façon dont ces personnes créent une sorte de territoire à eux en dessous de la, enfin autour de la grande scène. Et c'est effectivement très beau cette image de l'équipage ou du bateau. Et puis dans les photos que tu as prises, il y a à la fois des portraits, mais aussi des accessoires, des outils, des espaces. Et pour moi, il y a un lien très très évident à la peinture. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Ouais, j'aime bien travailler cette esthétique un peu dramatique, clair-obscur. C'est quelque chose que j'ai fait dans presque tous mes travaux précédents. Et puis j'aime bien créer une sorte de tension, en fait. Et je pense que j'ai un peu le sens du drame quand même. Donc du coup, j'avais envie de... Enfin, j'aime bien travailler avec les gens, surtout dans le travail de portrait, c'est un aspect très important de mon travail, mais aussi dans la relation à la personne. Dans ce que je peux ressentir de la personne que j'ai en face de moi.
Mon enregistreur me lâche et je perds notre conversation sur la mise en scène, le lien au théâtre. Car comme elle le mentionne elle-même, ces images ont quelque chose d'extrêmement dramatique. L'utilisation du clair-obscur au sein des photographies est renforcée par le dispositif alliant les images papier peint au lightbox, ces petites boîtes lumineuses qui donne l'impression que l'image produit elle-même son éclairage. Les jeux entre ombre et lumière, c'est ce qui donne au travail d'Angola cette tension particulière qui met en valeur des corps, des objets, des espaces inattendus. Équipage de navire ou scène de théâtre sous la scène musicale, la série de photos met en relief les éléments de construction. Cordes, planches comme recouvertes de tentures, nuages, canapé recouvert de fourrure au coussin improbable. Tout tend à créer comme un décor au sein duquel les bénévoles deviennent comédiens. Des comédiens que le clair-obscur laisse apparaître comme des figures très isolées. Une grande solitude se dégage des images, qui est aussi une façon de mettre en relief la singularité de chacun au sein de cette équipe-équipage dont il fait partie.
Et puis, il y a le travail d'Elisa Larvego, qui, elle, a travaillé dans le camping du festival. Elle aime mettre en valeur la créativité en fait, des festivaliers dans leur structure d'habitation. Elle montre ces structures d'habitation et l'inventivité des festivaliers qui créent des choses incroyables. Et donc, ces images fourmis de détails qui nous permettent de scruter ces lieux de vie éphémères.
L'attention qu'Elisa Larvego porte aux détails de ces structures provisoires nous entraîne, là aussi, dans un univers qui pourrait toujours être ailleurs que Paléo. Ce qui ressort, ce sont des constructions de fortune, un lien fort au bricolage, à l'approximation, volonté de faire tenir les choses le temps que durera le festival. Le lien aux déchets est fort aussi, des rebuts qui deviennent sculpturaux, tels ce ballon rafistolé, puis crevé et recouvert de boue, que montrent deux des images. Mais l'atmosphère générale des images est plutôt portée par une attention particulière aux couleurs de ces aménagements bancals. Et dans cet univers, les personnes photographiées font figure de personnages, de super-héros même. Le lien au costume est fort, puisqu'on les voit déguisés, drapés, grimés. Comme si le rafistolage qui caractérise les structures matérielles du lieu devenait si prégnant qu'aucune humanité ne peut s'imaginer en dehors de ces codes d'assemblage et de récupération. Pour habiter ce lieu, en somme, il faut devenir comme lui. Provisoire, passager, bricolé.
Il y a le travail d'Olivier Christina, qui lui a travaillé sur la foule et qui offre un regard assez particulier sur la foule puisqu'il travaille beaucoup avec les gros plans. Les flous, on a une approche presque, on s'approche presque de l'abstraction en fait dans son travail, qui joue sur les formes, les couleurs, les effets de flou, donc un travail très très esthétique.
Olivier Christina, vous êtes donc l'un des 5 photographes sélectionnés par le Musée de l'Élysée pour poser cet autre regard sur Paléo. Comment est-ce qu'on gère en tant que photographe une commande telle que celle-ci de faire un travail photographique dans un festival comme Paléo? Est-ce qu'il y a eu d'abord une grande phase d'observation ou est-ce que très vite ça a été clair ce que vous vouliez faire comme projet?
Alors en fait, c'est un projet que j'attendais, si j'ose dire, dans le sens où j'avais envie de travailler sur Paléo, parce que la foule de Paléo m'intéressait. Moi je fais déjà un travail, je ne sais pas si vous connaissez mon travail, mais je travaille pas mal sur les foules, mais plutôt les foules des villes en fait. Ou les foules qu'on peut trouver dans les piscines ou sur les plages. Hein, mais j'aime bien les rassemblements humains. Et je me disais, tiens, il faudrait que j'aille voir une fois du côté d'un méga concert, enfin d'un festival comme Paléo, parce que là j'aurais des grandes concentrations humaines qui pourraient donner des choses intéressantes. Et pendant que j'espérais, que je pensais en fait à comment j'allais faire pour m'immiscer dans ce festival, j'ai reçu un téléphone de Sam Sturze qui m'a proposé justement cette carte blanche. Donc, j'ai pas eu trop à réfléchir, je ne me suis pas trop demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire, puisque le sujet qui m'intéressait a priori, c'était le public de Paléo. Donc j'ai assez rapidement trouvé mon créneau, si j'ose dire.
D'après ce que j'ai entendu, vous avez pris de très nombreuses photos, mm-hmm. et parmi lesquelles vous avez dû en sélectionner 13.
Oui.
Comment s'est opéré ce choix, quand même assez drastique?
Très lentement. Alors, en fait, si vous voulez, faire mon travail, c'est le faire vraiment en deux temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps de la capture, si j'ose dire, le moment où je vais enregistrer des centaines, des milliers, j'en ai fait 12 ou 13 000 des photos. Donc je vais enregistrer des milliers d'images avec l'intuition qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais je ne peux pas tout contrôler. Surtout dans une foule. Dans une foule, sur certaines photos, j'ai 100, 200, 300 personnes. Moi, dans mon viseur, je vois un petit groupe d'individus. Mais tout autour, il y a d'autres choses qui se passent. En plus, au moment où je déclenche, je vais m'attendre à photographier telle situation, mais au moment où j'appuie sur le déclencheur, il va s'en passer une autre. Parce que la foule, ça bouge très très vite. Donc je vais enregistrer ces milliers d'images aussi parce que je sais qu'il y a plein d'imprévus qui vont être intéressants à saisir. Et la deuxième phase, c'est la plus longue, ça m'a pris 3 mois là, c'est le tri, la sélection des images et de découvrir dans l'image la partie qui va m'intéresser. Il faut savoir que je ne cadre pas tout de suite correctement, je vais recadrer ensuite.
Est-ce significatif que mon enregistreur lâche à nouveau à ce moment, alors que nous parlons cadrage? Il me reste quelques questions écrites sur un papier, désormais sans réponse. Le souvenir d'une discussion riche autour du flou, du net, du point de vue, du regard. Les caméras qui filment pendant les concerts de Paléo ont l'habitude de balayer la foule afin qu'on voit comme elle est nombreuse. Quand par hasard elle se fixe sur quelques visages, ceux-ci ont au fait de se reconnaître sur l'écran et de marquer cette reconnaissance de soi par de grands gestes ou de grands sourires. Ce point de vue est loin de celui que propose Olivier Christina, ou plutôt de ceux qu'il propose. Car ces images donnent parfois l'impression d'être au cœur de la foule, parfois plus en surplomb, parfois encore un peu en retrait. Parfois la foule nous fait face, parfois on la voit de dos ou de côté. Elle ne nous regarde jamais, ne nous vise jamais, comme le photographe qui la vise, elle, avec son appareil. Et pourtant, on capte des visages, des regards, des intensités. Le travail autour du flou que propose le photographe est subtil. Il établit comme une typologie des flous possibles. Pixelisation, brouillage, flou résultant des différents types d'appareils photo utilisés, multiplication des corps qui rendent trouble leur différenciation. Les mots manquent pour caractériser la nature de ces flous si variés. Et le flou ici ne fait pas de la foule une masse indistincte. Il semble au contraire rappeler que le flou est peut-être toujours un jeu avec le net, et que rendre flou, c'est donner à voir quelque chose dans l'image ou au-delà d'elle, une émotion, un point de vue, une tension. Comme l'appareil photo qui fait la netteté, le spectateur aussi est amené à avoir, dans le flou et par le flou, une expérience qui peut dépasser l'image. Comme par exemple, dans ces deux photographies où la figure humaine n'est plus visible que par ses contours. Et dans le noir qui remplit cette forme humaine qui s'absente, le spectateur peut voir, très nettement, sa propre image à lui. Chaque image proposée par Olivier Christina contient une histoire. Pas forcément en lien avec l'histoire que raconte l'image d'à côté, précise le photographe. Comme le titre de la série, « Histoire sans titre », le travail semble dire que la foule, c'est un rassemblement d'histoires qui peuvent se raconter et qui sont sans titre, peut-être parce qu'elles sont multiples, plurielles, toujours possiblement différentes, toujours à re-raconter.
Et puis, le dernier travail, c'est celui de Claude Bechtold, qui est un artiste qui a fait un film photographique où il invente une fiction, en fait, à partir de l'idée que Paléo, à 40 ans, est comme Ulysse, qui revient 40 ans après son exil chez lui. Il imagine une fiction autour de ce sujet-là.
Paléopolis n'est pas un documentaire sur le cheval. C'est une épopée inspirée d'Homère que l'on doit remercier ici. Mais c'est une épopée morale qui respecte la vérité historique. La vérité, c'est que Paléo est un cheval. Lui et le cowboy à casquette sont à l'origine du festival de musique dont il est question ici.
Dans son petit film décalé qui emprunte tant aux références populaires qu'à l'Odyssée, l'Ulysse de Claude Bechtold habite avec son cheval un tableau au cadre doré représentant une scène de genre. Un champignon magique lui permet de se transporter à Paléopolis. Caché dans les buissons, il observe avec des jumelles des choses aussi étranges que l'aspiratron à nuages, les sirènes végétaliennes ou le cyclotron anti-pluie, avant de se rendre au concert de Bob le Furieux. Puis retour au tableau. Plus qu'un périple, le voyage d'Ulysse consiste ici en un aller-retour. Et le personnage, ce n'est pas celui qui affronte, mais celui qui ne cesse de regarder. Un regard décalé, donc, qui se joue aussi dans un récit qui prend constamment les choses à rebours. Ce n'est pas Paléopolis qui fait tableau, mais la situation initiale. Au concert de Bob le Furieux, le personnage ne voit que le public, inversant ainsi les rôles. Ce qu'il y a à voir au concert, c'est ce qui se passe au pied de la scène, jusqu'au feu d'artifice final, monté à l'envers tandis que la musique défile à l'endroit, qui conduit à une explosion qui ramènera le personnage à son point de départ.
Et boum. Retour au tableau.
En somme, comment utiliser Paléo comme machine à fiction ?
Et puis dernière question, maintenant que vous avez proposé cette exposition, est-ce que vous avez effectivement un autre regard sur Paléo grâce à ces images ?
Alors oui, je pense qu'indéniablement c'est un autre regard parce que en fait déjà il n'y a pas de musiciens parce que pour des raisons aussi logistiques simplement c'était beaucoup plus compliqué de photographier les musiciens, il faut des autorisations, enfin ça demande une autre infrastructure et du coup on entre par d'autres biais en fait dans le festival et forcément qu'on ressort de cette exposition avec un autre regard sur Paléo.
Merci beaucoup Pauline Martin pour vos réponses.
Musique Foxtrot.
Les festivals de la fabrique.